Donc aujourd'hui, une discussion avec un invité, avec un collègue, Renaud Esten. Bonjour Renaud.
Bonjour Emmanuel.
Comment vas-tu Renaud?
L'hiver s'en va doucement, donc
C'est pas mal, hein? On a un petit rayon de soleil là. Ça va nous inspirer.
c'est ça.
On avait dit qu'on parlerait d'écoute aujourd'hui, Renaud.
C'est ça, d'écoute, mais pas que,
Mais pas
d'écoute.
que. Mais ce sera un peu le sujet, en tout cas le sujet de départ. Qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau de la pratique de l'hypnose? Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours, de ton expérience dans l'hypnose, dans l'accompagnement? Pour situer un peu ce que tu fais et.
Situer le bonhomme. Bon, moi j'ai 64 ans. Pratiquement toute ma vie a été dans le champ social et dans le champ de l'accompagnement. Le champ de la thérapie, j'y suis arrivé il y a un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai un parcours universitaire de psycho, une formation de formateur d'adultes, un DUT de gestion d'entreprise et des formations diverses et variées en massage et en thérapie. Thérapie hypnose, PNL, thérapie brève, mouvement oculaire. D'autres, on va dire, spécialités très techniques. Voilà où j'en suis. Donc j'exerce en Bourgogne, en Saône-et-Loire, à 40 km de Mâcon, à la campagne. Et
Vers Tournus.
vers Tournus, ça me va très bien comme ça, d'être défini comme un hypnothérapeute campagnard.
Ok, campagnard. Qu'est-ce que ça veut dire campagnard? Proche des gens,
Oh, retour à la
inculte,
retour à la nature.
retour à la nature.
Retour à la nature. Vers quelque chose de simple. La simplicité.
Ouais.
Voilà.
Que tu étais sur Mulhouse avant, c'est différent
J'étais en Alsace, ah bah oui, les
les
grandes
gens
villes.
dans les grandes villes par rapport à Tournus, par exemple.
Non, c'est. Dans les grandes villes. Souvent, hein, parce que j'ai habité aussi Paris, Lyon, mais souvent dans les grandes villes, il y a une question de temporalité, quoi. Les distances sont à la fois plus courtes, mais le temps peut paraître plus long pour se déplacer. Si vous voulez, par exemple, si vous êtes à Paris pour aller à la campagne, ben, il faut au moins 1 heure et demie. Voilà. À Mulhouse, c'était bon, assez facile parce que j'étais quand même en périphérie, donc c'était voilà, aisé d'aller dans les collines. À Lyon, c'est plus compliqué, quoi. Donc le rapport à la nature, le rapport à la simplicité, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'écoute de soi, l'écoute des autres, c'est un retour à quelque chose d'essentiel, de l'essentiel. Donc là, aller à la nature, être dans la nature, travailler dans la nature, à la campagne, quelque chose qui s'imposait à moi à ce moment-là, il y a une dizaine d'années, et puis bon, ça me plaît, j'y reste.
Ok. Et donc il y a un parcours thérapie brève, on pourrait dire que.
Parcours, thérapie brève. Thérapie brève, ok, intégrative, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que moi je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un spécialiste de l'hypnose hellmannienne ou le MDR. Bon, j'utilise les techniques, je les connais, je les pratique, je les utilise dans quelque chose qui est plus global, peut-être plus généraliste. Si j'avais à me définir comme ça, ce serait plutôt que je suis quelqu'un de généraliste, touche à tout, mais pas spécialiste. Voilà.
D'accord.
Ce qui fait que ma trousse à outils est quand même plus importante.
Ça va pas être centré forcément sur l'hypnose.
Non, c'est pas uniquement centré hypnose. En fait, j'ai une démarche très pragmatique. C'est la démarche de Roustan, pragmatique. On va à l'essentiel, on va vers quelque chose qui marche, On se pose pas trop la question. Et ça nécessite quand même, il me semble, alors là je m'adresse aux jeunes praticiens, pas aux chevronnés, mais plutôt jeunes praticiens, praticiennes, c'est soigner, ce qui est important, c'est soigner la qualité de son écoute à travers son positionnement, sa posture, son expérience, utiliser sa propre expérience. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour savoir bien écouter ou savoir bien écouter ses jugements, savoir écouter ce que l'autre a à dire et utiliser à bon escient ce que l'autre dit.
Savoir écouter, savoir utiliser ce que l'autre dit. Comment on sait écouter? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, savoir écouter? Quel effet ça a sur la personne qui est écoutée? Mais pourquoi ça paraît tellement important dans ta pratique, cette notion d'écoute?
Les gens qui viennent nous voir, qui souffrent, différentes choses, hein, et qui souffrent vraiment, quoi. Même, ils n'arrivent pas à arrêter de fumer, ou parce que Tartempion l'a quitté, et puis qu'il y a une déception amoureuse. Ils sont déjà, avant tout, là pour dire leur mal-être, l'expliquer. Si on n'est pas prêt à écouter, c'est-à-dire être dans une position de réception du message, on va passer à côté. On va passer à côté de ce qui est important. Parce que dans le discours, il y a ce qui est dit, il y a les mots, il y a aussi la manière de le dire.
C'est-à-dire le ton de la
Le
voix, les
ton de la
mots qui,
voix, voilà.
le registre de langage.
Voilà, la prosodie, tout ça. Le contexte dans lequel ça se passe. Quand c'est dans un cabinet où il n'y a pas trop de bruit, ben c'est peut-être différent d'un cabinet où il y a des bruits de la rue, marteau-piqueur, les petits oiseaux, ou je sais pas, le voisin du dessus qui. Ou la voisine qui fout du bordel, enfin voilà. Le message peut être perturbé. Donc le contexte c'est important, et sa propre position de receveur ou de récepteur.
Ce qu'on appelle généralement la posture du praticien.
Posture, j'aime pas ce mot-là, mais on va dire que c'est. Je préfère la
La
position
position.
que posture, mais donc posture, c'est quelque chose de plus général, donc oui, allons
La
là-dessus.
position, la position qu'on occupe dans l'espace par rapport à la personne, la position du corps, enfin c'est.
La position, là. Il y a Edgar Thiot, là. Moi, j'ai fait beaucoup de. À un moment donné, je travaillais dans des formations en sociologie des organisations. Ça, c'était quand je préparais mon diplôme de formateur d'adultes. Donc, c'était beaucoup travailler sur la proxémie d'Edgar Thiot, quoi. Le message est différent selon qu'on se situe à 50 cm, 1 mètre, 2,50 m, loin. Des exemples, par exemple. Je vous pose une question. Est-ce que ça vous arrive de parler à quelqu'un quand vous êtes dans un petit ascenseur comme celui qui est là à Mâcon? Ou dans un grand ascenseur? Est-ce qu'il vous arrive dans vos séances de parler, de chuchoter à l'oreille de votre clientèle? Ou est-ce que vous êtes à une distance, on va dire, qui vous semble convenable? Peut-être qu'à 50 cm, ça se justifie. Mais ça sera pas le même, il n'y aura pas le même impact que si vous vous trouvez à 1,50 m, 2 mètres, s'il y a une table entre vous et la personne. Donc il y a tout un contexte. Donc l'écoute, c'est pas simplement les oreilles, les yeux, le corps, c'est aussi l'environnement. Enfin, c'est comme ça que je le perçois.
Savoir écouter le contexte.
L'utiliser aussi.
L'utiliser, ouais. Et certainement, tout ce que la personne dit, c'est contextuel, forcément. Contexte d'une situation, d'une émotion, d'un moment particulier.
Oui, et elle le dit d'une manière unique, c'est-à-dire elle le dit au cabinet, ou elle le dit dans le lieu de la séance. Elle ne va pas le dire de la même manière dans un bistrot de gare, quoi, ou dans la rue.
Qu'est-ce qui est différent entre le cabinet d'hypnothérapeute et le buffet de la gare?
Je pense que c'est pas le même lieu de sécurité, quoi. Mmh. Bon, je dirais ça,
la sécurité.
Tout simplement, oui. L'intimité.
L'intimité,
ouais.
La confidentialité,
c'est quand même. Dans l'écoute et dans le travail qu'on fait, il me semble que voilà, c'est quand même un des fondements sur lesquels voilà, on peut travailler. La confidentialité des informations, ouais, et la manière dont on les utilise. Donc oui, café de la gare, restaurant, dans une voiture. Cabinet, c'est pas les mêmes lieux. D'ailleurs, je connais pas beaucoup de lieux de thérapie qui sont au café de la gare. Il y a des lieux d'échange, oui, peut-être des lieux culturels, artistiques, mais des lieux de thérapie dans un bistrot de gare ou dans un hall de gare.
Est-ce qu'on peut prêter des vertus thérapeutiques au fait d'avoir une discussion avec un copain dans un café ou de faire des confidences à sa coiffeuse, mais c'est pas la même chose alors.
Non, c'est pas la même chose. C'est pas le but thérapeutique. Quand vous allez voir un médecin, vous allez voir un médecin au cabinet, quoi. Vous pouvez demander conseil à votre voisin ou à votre cousin ou à la crémière ou à la coiffeuse. Hein. Ah, tiens, j'ai eu ça, qu'est-ce que tu prends comme crème? Mais ça n'a pas aussi le même impact que il y a chez un médecin, il y a un diagnostic, il y a un pronostic, il y a une ordonnance. Vous avez le choix. Vous avez le choix entre prendre l'ordonnance ou ne pas prendre. Si vous ne prenez pas l'ordonnance, bon, c'est bon. Vous avez le choix de prendre l'ordonnance et de ne pas aller chercher les médicaments. Okay, très bien. Vous avez le choix de prendre l'ordonnance, aller chercher les médicaments à la pharmacie, les prendre ou ne pas les prendre. On a une liberté de choix qui est un peu illusoire. Donc, l'écoute, c'est aussi que ça, quoi. L'écoute, c'est fluctuant. C'est un peu comme... Enfin, la manière dont moi je travaille, hein, désolé, mais je ne vais pas généraliser, mais on va se situer dans ce que je fais, ma pratique.
Tu parles de ce que tu connais, alors?
Je parle uniquement de ce que je connais, de ce que j'expérimente, de ce que j'ai appris par l'expérience, par les formations universitaires,
En quoi ça consiste, pour toi, l'écoute?
Pour moi, c'est s'abandonner complètement à ce qui est, à ce qui vient. Alors on peut faire une analogie avec ce qui se passe dans la psychanalyse, où on a une écoute flottante, où les mots ont la même valeur. Simplement, moi je ne vais pas le travailler comme ça. Moi je vais me mettre dans une position d'attente, sans attendre. Et ce que je vais retenir, ce sont des mots qui viennent par-ci, par-là, quoi, sur lesquels je vais rebondir, enfin, en tout cas, je vais les saisir et m'en servir pour aller un peu plus loin dans le questionnement, s'il y a besoin, ou en tout cas, des mots dont je vais me servir dans le cas de métaphores.
Donc ce
comme,
sont
comme,
des
un
mots,
signal, comme un signal.
Des mots qui vont être saillants dans ce que dit la personne. Mm. Mais c'est-à-dire, est-ce que c'est des mots qui se répètent? Est-ce que
non,
c'est
pas
des
forcément.
Mots particulièrement
non,
importants
non, ou... non, 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 c'est pas forcément des mots qui se répètent. Ça peut être des mots qui se répètent, mais ça peut être des mots qui arrivent comme ça, on ne sait pas d'où. D'ailleurs, bon, dans les cabinets, des gens qui disent « Oh, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, tiens, ça m'est venu comme ça. » Et donc, moi, dans cette position où je suis, d'écoute sans attendre rien, quoi.
Dire sans attendre dans le sens où la réponse n'est pas contenue dans les questions que tu vas poser, par exemple.
Oui, souvent c'est un peu ça. Donc il y a un mot comme ça, et qui va avoir un impact sur moi. Mmh. Non pas parce que ce mot a déjà existé dans mon existence, dans ma vie, à travers une expérience, non. C'est parce que je vais, de manière instinctive, c'est presque animal, quoi. C'est bien un truc,
C'est important. Ce mot-là, il est important.
Ce mot-là, voilà, ce mot-là. Et je ne sais pas pourquoi. Mais la thérapie, c'est ça aussi. Donc je suis dans une espèce de transe hypnotique, en même temps que la personne est en transe hypnotique, sans vraiment l'être, mais des fois elle l'est, et puis voilà, puis c'est très bien comme ça. Et donc les mots vont venir.
C'est-à-dire dans le temps où on discute avant l'hypnose formelle, tout le temps où on parle avec la personne, on ne sait pas trop si c'est l'hypnose ou de la simple discussion. Hein.
Oui, mais même dans une séance d'hypnose, c'est-à-dire quand la personne est en transe hypnotique. D'ailleurs, elle peut rester dans le fauteuil, mais elle peut être debout. Moi, j'aime beaucoup travailler debout, une partie de la séance, debout. Bien l'idée du mouvement, quoi, mais du mouvement physique. Le corps est important. Le corps, pour moi, c'est ce qui est principal. Donc, mettons le corps en mouvement. Donc, mettez-vous debout. Okay. Bien. Trans hypnotique, induction, peu importe laquelle. Hein. Moi je vais au plus simple, minimaliste, le plus souvent. Retrouvons ce que vous savez faire, vous savez respirer, ok, portez attention à votre souffle, tout ça. Donc là, on se met dans une position d'écoute, je le fais de la même manière. Et donc on va se mettre, on va être en transe tous les deux. Elle parle. Donc l'hypnose pour moi n'est pas forcément silencieuse. Hein. Pas forcément à travers les mouvements des doigts ou mouvements des idéomoteurs. Hein. J'aime beaucoup le langage, et donc il y a cette possibilité pour les gens de parler. Donc quand ils parlent, d'être écoutés. Donc c'est dans cette perspective-là que, de temps en temps, il y a un mot qui vient, poum, on ne sait pas pourquoi, il est là. Ah, restons là-dessus. Restons là-dessus. J'avais mis un post sur un groupe d'hypnose à travers une expérience que j'ai eue. Je vais faire une petite parenthèse. Un jour, il y a une personne qui vient qui me dit « Ouais, ça va pas bien dans ma vie, tout ça. Okay. Mon mari m'a quitté, enfin bon, je dors plus. Je suis comme face à un mur. » Comme face à un mur. Donc moi, ce que je retiens, c'est le mur. Et à partir de là, donc lieu, c'est le transhypnotique, lieu sécure, tout ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi c'est venu, mais ça n'a pas important. À un moment donné, je lui pose la question, est-ce que vous savez faire de la balançoire? Elle me dit oui, et d'ailleurs, ça me rappelle... quand j'étais chez mes parents, dans le jardin de mes parents, je me balançais, et puis j'avais tout. Juste un regret, c'est que j'arrivais pas à voir derrière le mur de... Oh, je ne sais plus si c'était un mur ou une haie, bref. J'arrivais pas à voir chez les voisins. Et donc, je lui ai fait halluciner et revivre l'expérience hypnotique de la balançoire. Et je lui ai demandé d'aller le plus haut possible. Et je voyais son corps qui bougeait comme ça, de plus en plus. Je lui disais, vas-y, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et à un moment donné, plaf, elle se fout à chialer. Voilà. Ok, très bien, restez avec ça. Qu'est-ce qui vient? Oui, je voulais voir, je ne savais pas que j'étais capable d'aller voir derrière le mur chez les voisins. Ah, oui. Et c'est une grande découverte. Et comment vous vous sentez maintenant? Waouh, vachement soulagé. Okay. Donc l'écoute, c'est aussi ça. C'est, c'est écouter ce que la personne a à dire, s'écouter soi-même, parce que si je ne m'étais pas écouté, je n'aurais pas repéré le mot mur, je n'aurais pas utilisé de cette manière, et je lui aurais pas proposé l'expérience de la balançoire, donc je ne savais pas qu'elle avait fait de la balançoire, je ne savais pas, mais c'est venu comme ça d'une manière très instinctive. Donc c'est aussi écouter l'autre, s'écouter soi-même, mais écouter ce qui se passe dans la relation. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas trouvé d'école qui, en France ou à l'étranger, peut-être ça existe, hein, j'ai pas trouvé de lieu où on apprend à utiliser ça.
Il y a pourtant des théories qui existent sur le sujet. On a parlé de Carl Rogers, par exemple, tout à l'heure.
Oui, Carl Rogers, oui. Carl Rogers.
Tu disais, on pourrait le résumer par le mot empathie, son approche.
Congruence.
Congruence.
Ouais. Empathie.
Sachant qu'on ne va pas être plus d'accord sur les définitions.
Ce qui est le plus important chez Rogers, c'est la congruence au-delà de l'empathie. Quand même. C'est-à-dire une certaine forme d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Hein, j'aime beaucoup ce mot, honnêteté.
L'honnêteté.
Honnêteté.
Et je vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, si ta cliente, elle te dit un truc, tu peux lui dire, par exemple, ce que vous me dites, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas.
Pas lui dire comme ça, mais oui.
Il faut être honnête.
En tout cas, lui dire. Dire, c'est pas le sujet.
C'est pas le sujet. Ouais.
C'est pas le sujet.
Il n'y a rien d'inintéressant, mais c'est le sujet ou c'est pas le sujet.
Mais c'est certainement très intéressant, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet dont on travaille, dont on. Voilà, c'est pas le sujet de la séance, c'est pas le sujet de votre venue. Hein.
Donc il faut arriver à être écoutant. Enfin, il faut arriver à être écoutant, mais sans tout en étant capable de discriminer les informations.
Bah, pour moi,
enfin,
oui,
discriminer, prioriser, hiérarchiser, quoi.
Oui et non, parce que... oui et non. Moi, ce que je demande aux personnes qui viennent me voir, c'est « Ok, vous êtes là, alors, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille ?» En fait, c'est la question, c'est pourquoi vous êtes là. Et en aucune manière, je veux dire, c'est ça qu'il faut qu'on travaille.
Ouais.
Il y a des gens qui viennent me voir en disant « Je veux arrêter de fumer », et puis ils n'y arrivent pas. Bon, alors vous n'êtes pas prêt, revenez quand vous serez prêt. Il y a d'autres personnes... Et j'en ai connu qui vont dire, oui, bah, peut-être, vous avez été abusé dans votre enfance, peut-être qu'il faudrait travailler le trauma. Je dis, moi, j'en ai rien à foutre, ça, t'es même pas là pour ça. Quand tu vas chercher un steak chez le boucher, tu reviens pas avec un poisson.
Normalement, non.
Hein? Normalement, non.
Normalement, non.
Voilà. Donc la personne me dit, bah, c'est ça que j'ai envie de travailler, ben, on y va, hein. Vous êtes prête ? Oui, ok. Donc il n'y a pas de. Dans l'écoute, elle est. Il n'y a pas d'interprétation là-dedans. C'est une présence, en fait. C'est être là, c'est être animal. Je suis souvent avec mes chats. Donc j'ai plein de chats chez moi. Et je regarde les chats, je discute avec eux, je leur parle, et ils me répondent. On a. Au fur et à mesure des années, introduit une espèce de langage à base de miaou, de caresses, de regards. On n'a pas besoin de se dire miaou pour comprendre voilà, ce qu'il y a à comprendre. Mais c'est de l'écoute. Quoi. C'est-à-dire, le corps est attentif et en position d'écoute de ce que l'autre a à dire. Donc c'est voilà, une posture ou une position, ou en tout cas une manière d'être, qui est tout le temps en mouvement. C'est pas quelque chose qui est figé. C'est en mouvement.
N'est pas juste un espèce de récepteur un peu passif.
Pas du tout.
Le cliché du psychanalyste qui griffonne sur son carnet.
Ah, le psychanalyste, le freudien, il fait pas ça. Le freudien, il fait rien. Il prend pas de notes, le freudien. Moi, je peux témoigner. J'ai fait une psychanalyse pendant un peu plus de 5 ans, 2 fois par semaine. J'ai jamais raté une séance. Hein. Voilà, ça fait quand même un paquet de séances. Et c'était très bien, mais il y a un truc qui me dérangeait, c'était un, je posais des questions et il ne me répondait jamais, c'est les freudiens comme ça. Hein. Bon, il a dû peut-être répondre en 5 ans à 3 de mes questions, ce qui est déjà beaucoup. Et puis surtout, c'est que je fumais le cigare, et ça puait. Donc, j'étais. Alors, il n'y a pas besoin de prendre de notes. Il fumait le cigare. Je ne savais pas ce qu'il foutait puisqu'il était derrière mon dos, là, donc je ne savais pas. J'avais juste à lui serrer la pince après chaque séance. Bon. C'est la psychodynamique, c'est quand même. C'est la psychanalyse, quoi. Ça, donc, on n'est pas dans une position d'attente, là. On est dans une position à la fois d'attente, mais aussi en mouvement. Et on est en attente par rapport à ce que l'autre dit à travers sa parole et son corps, mais on est aussi dans un mouvement. Alors moi, j'ai souvent tendance à me dire, quand on me pose la question, mais comment tu es dans une séance, je dis, c'est comme si je dansais un tango. Et pas simplement un paso doble ou une valse où il n'y a qu'une personne qui mène la danse. Le tango, c'est et l'un et l'autre.
Et l'un et l'autre, avec des jeux d'attraction, de répulsion, de...
Voilà, donc j'aime beaucoup cette idée du tango. Il y a deux personnes qui font corps, et on voit où ça nous amène. On n'en sait rien. On ne sait pas. Mais ça demande de l'apprentissage, ça demande d'écouter l'autre, mais on ne va pas regarder les pieds de l'autre. Quand on danse, on regarde ses yeux, en principe, on va regarder... C'est ça qui est important, c'est voilà, qu'est-ce que tu me dis là, hein, qu'est-ce que tu me dis. Et quand on la tient, ou on tient le cavalier ou la cavalière, on va sentir avec nos mains, notre corps, voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se dit, sans être dit. Eh bien, une partie de mon travail, c'est ça.
D'écouter ce qui n'est pas dit, alors.
D'écouter ce qui n'est pas dit, de ressentir. Oui. L'écoute, c'est aussi quelque chose d'émotionnel. Hein. On a nos sens, mais...
Ce que tu me disais tout à l'heure, écouter avec ses yeux, écouter avec, avec son corps, voir avec ses mains.
Alors ça, oui, je sais pas, j'ai pas trouvé d'école qui apprend ça. Puis bon, je veux dire, maintenant, moi, j'en aurais pas besoin. Mais pour des jeunes... qui se lancent ou qui veulent se former à ça, mais c'est un long boulot. Donc moi, c'est 40 ans de pratique, là. Aujourd'hui, j'en suis à 40 ans de pratique dans la relation d'aide, mais c'est parce que j'ai fait ça. J'ai travaillé dans le champ social et de la relation d'aide que je peux me permettre. Et donc, ma porte d'entrée, c'est Carl Rogers. J'y reviens. Donc, on dit l'empathie. Oui, l'empathie, d'accord. Hein.
Comment tu la définirais aujourd'hui, l'empathie ?
L'empathie, c'est cette capacité à ressentir la souffrance de l'autre. Pathos. Pas la joie. C'est pathos. Empathie, pathos, souffrance. C'est pouvoir ressentir ça. Et en même temps, en être détaché. Parce que si je souffre avec « Oh, t'as mal, moi aussi », c'est de la sympathie. Simp. Pathos, c'est souffrir avec. Moi, je ne souffre pas avec. Je souffre à côté. Mais...
Ressentir la souffrance, mais sans vraiment souffrir. Alors.
Ah ben, sans souffrir. Ben, sinon, tu n'es pas à ta place en tant que thérapeute. Hein. Et la congruence, c'est d'être présent à soi-même. Donc, c'est l'autre capacité, l'autre compétence, c'est d'être... l'autre trouvaille de Rogers, c'est être à sa place, quoi. Si je peux le résumer comme ça, c'est être à sa place. En tant que thérapeute, en tant que personne humaine, et je rajouterai l'honnêteté, quoi, dans la congruence. C'est-à-dire que c'est une notion que voilà, moi j'inclus là-dedans. Sincérité, honnêteté, d'ailleurs. Être le plus honnête possible. Et puis, les techniques de reformulation.
Qu'est-ce qui existe comme technique, justement, dans cette démarche d'approche, de questionnement, d'entretien stratégique ? Parce qu'on a parlé de Nardone tout à l'heure, Giorgio Nardone, qui a toujours des protocoles super, super intéressants sur le papier. Mais est-ce que le formalisme comme ça de ces techniques est pas nuisible au rapport en fin de compte? Est-ce que le fait de vouloir avoir un entretien stratégique, le fait d'être stratégique, c'est pas déjà un manque d'écoute en soi?
Alors, je ne dirais pas comme ça. Je ne dirais pas comme ça. Mais dans la mesure où c'est annoncé dès le départ, il n'y a pas tromperie sur la marchandise, quoi. Si une personne vient voir Nardone et dit, voilà, je viens en thérapie. Il y a quand même 99,99% de chances que personne sache que Nardone.
Ça va être étape 1, étape 2, étape 3, etc.
Il a une manière particulière de bosser. Hein,
aujourd'hui, toi, tu dirais que c'est quelque chose qui va être plutôt structuré, plutôt libre, ces entretiens, ces séances? Est-ce qu'il y a un début de séance, un entretien préalable? Est-ce que tout ça, c'est un seul et même flow de toute la séance? Par exemple, est-ce qu'à un moment, tu dis, on arrête de discuter, maintenant on fait de l'EMDR, on fait de l'hypnose, ou c'est
alors,
plus une
alors, ça peut être ça.
Ça peut être ça.
Mais je ne vais jamais le dire comme ça.
Ouais.
Non. Non. D'abord, je vais toujours demander l'accord.
Ouais.
Est-ce que vous êtes
d'accord?
Oui, ça d'accord,
fait partie de l'écoute aussi, ça, oui.
Est-ce que vous êtes d'accord pour faire une expérience particulière? Et vous allez voir, c'est très rigolo. Enfin, rigolo. Si je prends les mouvements oculaires, je ne fais pas de MDR, mais je fais un truc voilà, voisin,
simple. Mémo, rythmo, EMT.
Non, même pas, c'est le truc encore plus simple. Je crois qu'on se casse la tête avec des trucs voilà, qu'on complexifie.
Ça fait sérieux.
Voilà.
Ça fait sérieux.
Si on prend les mémés de Dominique Méglet, hein, les mouvements oculaires, mouvement alternatif des yeux, mémés. M-A-Y, M-E-S, mais M-A-Y, mouvement alternatif des yeux. Ou les maps de d'outre-lune, mouvement alternatif pluriel, il y a quatre questions, tout. Hein, voilà. En gros, c'est. Il y a une émotion, on l'utilise le plus souvent dans quelque chose qui est un peu traumatique, quoi, dans un passé traumatique, mais pas non plus. Pas des gros trucs. Hein. Donc la première question, c'est une émotion. Voilà, reste avec ça. Donc, première focalisation intérieure, reste avec l'émotion. Deuxième phrase, c'est et en même temps, suis mes doigts. Donc là, une deuxième focalisation, mais vers l'extérieur. Laisse venir ce qui vient. Et la quatrième question, c'est qu'est-ce qui vient? Donc c'est un traitement très hypnotique.
Oui, c'est l'orientation de l'attention. Quoi.
Voilà. Orientation à l'intérieur, orientation vers l'extérieur, dissociation, double dissociation, réassociation, qu'est-ce qui vient? Voilà. Quelle émotion est là? Laisse venir. Et donc c'est très simple. Donc par exemple, avec ça, je veux dire, on va faire un exercice, c'est une expérience plutôt qu'un exercice. On va voir, c'est assez marrant. Vous êtes d'accord, lui, ben on y va. Donc, mais je demande toujours l'accord préalable. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire de l'hypnose? Même si je sais que la personne est là pour ça. Quoique.
Est-ce que les gens viennent vraiment pour ça?
Est-ce que les gens viennent pour de l'hypnose? Est-ce que les gens viennent parce que ça a marché chez la cousine, voilà.
Pour prouver que ça va pas marcher.
Pour prouver que ça va pas marcher. Alors là, moi c'est très simple. Hein. Moi je les détecte très vite. Je leur dis exactement ce qu'on m'a enseigné là pour le coup et que je partage. Je comprends votre désarroi, votre souffrance, mais vous avez usé tellement de thérapeutes différents que si vous voulez jouer ce petit jeu avec moi, ce sera sans moi. Et donc c'est la porte. Voilà, donc on va s'amuser à... Je les reconnais, au bout de 10 ans de pratique en thérapie, mais j'ai 40 ans de pratique relationnelle, donc je sais reconnaître ça. Donc voilà, ouais, c'est très... C'est... Allons au plus simple. Et l'écoute, c'est aussi ça, c'est se mettre dans une disposition au plus simple, sans être pollué par ses propres stratégies, intérêts. Ah bah tiens, il m'a dit ça, je vais faire ça, puis ça va rentrer dans le cadre de la dimension stratégique, parce que voilà, ça fait bien, parce que on me l'a appris, parce que... Non, non, restons simples, restons calmes.
Mais c'est une vraie complexité, une vraie difficulté d'épurer, de simplifier. On en a parlé tout à l'heure. Le minimalisme, ça commence par quelque chose de pollué, de surchargé qu'il faut, qu'il faut dépoussiérer. Quoi. Bah,
c'est compliqué de vivre avec peu ou de travailler avec peu. On est souvent aujourd'hui dans notre société française actuelle. Surinvesti par tout des tas de trucs qui ne sont pas toujours très utiles à ce moment-là. Combien il y a de choses qui dorment dans les caves, dans les greniers. Hein. On parle, pour revenir aux thérapies, de ces fameux nettoyages de printemps. Ben ça, allez-y, hein, ça va être le moment d'ailleurs. Oui. Hein, voilà, on va en voir fleurir plein des formations sur les nettoyages émotionnels et les nettoyages de printemps. Voilà, bon, c'est comme Noël à Noël, hein, c'est comme Pâques à Pâques, ça revient tout le temps.
C'est, c'est le marronnier, le marronnier du printemps.
Voilà. Ok, mais alors, quel est l'intérêt d'accumuler autant, hein? Donc tout ça, nous, on a besoin aussi, j'ai besoin d'écouter ce qui n'est pas dit. Par exemple, ça, j'accumule des emmerdes, j'accumule des désillusions, j'accumule des échecs. Dans cette position de ne rien attendre, d'attendre sans attendre, ça fait que, comme dit Roustan, moi je suis indifférent au résultat. Je suis indifférent au résultat. C'est pas moi qui bosse.
C'est pas toi qui bosse, mais c'est toi qui te fais payer. Donc tu...
Ah mais
tu justifies tes honoraires. Qu'est-ce que ça veut dire que le thérapeute ne fait rien, le client fait tout? J'entends où c'est 50% des personnes qui font le boulot, mais de quel boulot on parle, de quel travail spécifique
première chose, c'est que moi déjà, j'annonce la couleur quasiment à chaque rencontre. C'est un. Vous avez décidé. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi vous venez me voir? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, puis de toute façon, moi je suis un escroc parce que je ne sais rien, je ne sais pas. C'est vous qui bossez, c'est vous qui me payez. Pour ça, je l'ai retenu de Roustan. Je suis un escroc, c'est vous qui bossez, c'est moi, vous qui me payez. Ça, c'est du Roustan tout craché, et j'adore ça. Donc j'attends rien, j'ai pas à attendre, je suis pas l'expert de la souffrance des gens, moi. Je suis là juste...
Mais ce serait une escroquerie de ne pas savoir quelque chose, alors.
Je vais tout le dire comme ça, c'est rigolo, ça.
Spontanément, alors peut-être que Roustan, il est arrivé plutôt dans mon parcours, mais j'ai plutôt l'impression que l'escroquerie, c'est d'affirmer aux gens qu'on les comprend, qu'on sait, qu'on...
Mais moi, j'ai dit le contraire. Quelque chose, quoi. Moi, j'ai dit le contraire. Je ne sais pas. Ouais. J'ai pas de réponse à votre souffrance. Et je rajouterais, et si j'en avais une, ça serait certainement pas la bonne. Parce que c'est pas la vôtre.
Il faut que ça vienne des gens eux-mêmes. Et nous, on est là pour favoriser l'émergence, faire un peu de la maïeutique, en fait, quoi. Mais faire accoucher de quelque chose.
C'est ça, donc c'est, ouais. C'est un discours. Pour là, on est dans un discours socratique, oui. Mais ouais. C'est exactement ce qu'Erikson faisait avec ses gens, avec ses patients.
Pourtant, on a l'impression, puisqu'on prend Erikson, mais qui est emblématique de nos pratiques de thérapie brève, etc., qu'on nous l'a souvent présenté comme quelqu'un d'assez dominant, d'assez... qui occupait beaucoup l'espace, qui parlait beaucoup, qui racontait des métaphores à tiroir.
Oui, sûrement, sûrement.
Est-ce que c'est contradictoire avec l'idée de présence, l'idée d'écoute, ça, ou pas?
C'est une position à travailler. Hein. Erikson, il fait du Erikson. Sten fait du Sten. Winter fait de l'hiver. Mm-hmm. Voilà. Et puis d'autres, ils font... Chacun trouve sa place. La difficulté, c'est qu'on a tellement édulcoré la pensée d'Erikson que des fois, ça ne veut plus rien dire. C'est noyé dans une espèce de mélasse de PNL et trucs comme ça. En France, hein, à l'étranger, je ne sais pas, mais en France. Voilà, donc non-directivité, tout ça. Non-directivité, c'est Carl Rogers. Ça, pas intervenir, je suis assez d'accord. Mais n'empêche que... Quand il faut appeler un chat, et dire aux gens, ben là, ce que vous faites, c'est de la merde, ben il faut leur dire. Il faut leur dire avec bienveillance. Mais il faut leur dire.
Voilà, il y a la bienveillance et la gentillesse.
Ben là, on a discuté. Moi, je ne suis pas gentil. Hein. Je ne serai jamais un gentil dans la thérapie, jamais.
Non, puis il y a peut-être des choses qui ne peuvent pas être dites, qui peuvent pas être dites gentiment. Ou...
Non, on peut dire, par exemple, quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? Ce que vous faites, c'est de la merde. »« Ah bon ? Ben oui, je vous ai demandé de faire 10 fois de suite le tour du pâté de maison, et vous ne faites pas. Alors, c'est comme l'ordonnance du médecin, quoi. N'est pas à vous plaindre, maintenant. » Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille ou on s'amuse ? Moi, je travaille énormément avec les recadrages. Ça nécessite aussi pour ça de l'attention, de l'écoute, le recadrage, pour pouvoir utiliser le mot qu'il faut, et la manière de le dire. Mais s'il faut botter le cul des gens, je le fais, gentiment. Avec bienveillance, pas gentiment.
Je pense qu'un bon recadrage, les gens en général savent déjà ce qu'on leur dit, quoi.
J'ai commencé ma pratique, parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, bonjour, monsieur, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Interdit, ça. Tabou.
Donc, moi, benoîtement, je l'ai travaillé, j'ai fait de la thérapie pour moi, et de la supervision. Pour moi, hein, voilà, je le suis toujours. Mais aujourd'hui, non, c'est pas ça. J'ai inversé le discours. C'est, qu'est-ce qui vous amène? On peut trouver d'autres formulations, mais en même temps, c'est quoi le problème, en gros?
Ouais, c'est pas moi je fais pour vous à votre place. Ouais.
C'est pas qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En quoi puis-je vous être utile? J'utilise plus ça. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous amène? Et là, je suis dans une position d'écoute, d'attente, et en même temps d'écoute. Parce que la personne va me parler de... Elle va me parler de son problème. Ouais. Si je lui dis en quoi je peux vous être utile, elle va me parler de quelque chose qu'elle n'a pas, qui ne fait pas partie de son intérieur. En quoi je puisse vous aider? Qu'est-ce que l'on sait? Je vais peut-être lui faire des piqûres ou pas? Elle ne peut pas savoir. Alors là, tu demandes de parler de quelque chose qu'elle connaît, dont elle est experte. Elle est experte de son problème. Mais pas de sa solution. Mais des fois, elle a des solutions. Mais des fois, les solutions sont les problèmes. Et les problèmes sont les solutions. Donc il faut se dépatouiller avec ça, et c'est au fur et à mesure des séances, je ne dis pas d'y repenser, mais d'un travail. Alors là, pour le coup, moi j'insiste, c'est que la supervision auprès de personnes, on va dire, agréées,
qualifiées,
reconnues, voilà. L'ABL, ce qu'on veut, c'est obligatoire pour pouvoir exercer. Obligatoire. au même titre que la thérapie du thérapeute. Voilà, ça devrait être obligatoire. Voilà.
Ça devrait être obligatoire, mais ça ne l'est pas d'ailleurs. Enfin, et heureusement ou malheureusement, dans notre monde des pratiques de soins non conventionnés, parce que ça s'appelle comme ça, même si on se refuse à dire le mot soin, etc., il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien d'interdit. Mais pourquoi ça devrait être obligatoire? C'est-à-dire pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant pour les thérapeutes d'avoir de la supervision, de se faire thérapiser? Quels sont les bénéfices pour les personnes qu'ensuite on va accompagner?
Eh ben, c'est de la formation continue, quoi. Je veux dire, ouais. C'est comme de la formation continue. C'est comme de l'analyse de la pratique. On parlait de maïeutique tout à l'heure, ben c'est ça. Devenir meilleur, enfin si on peut dire ça comme ça, devenir meilleur.
Moins mauvais, je sais pas, ouais.
Dénouer des tensions qu'on peut avoir parce qu'on n'arrive pas sur un cas particulier et qu'on ne se sent pas bien et que, voilà, d'une manière psychanalytique ou psychodynamique, il y a un contre-transfert qui se met en place et qui n'est pas réglé, quoi. Ah ben le mec là, il me parle de son problème d'alcool, mais moi j'ai bu comme un trou quand j'étais jeune, ou mon père buvait ou ma mère buvait comme un trou, ça me ramène à ça, et comment je peux être neutre? Je peux pas avoir de neutralité. C'est pas une neutralité, le thérapeute peut pas être neutre.
Peut-être retrait, réserve, prudence.
C'est ça, mais la qualité d'écoute va pas être la même, quoi.
Ouais.
Puisqu'il risque d'y avoir une centration sur le propre problème ou la propre vécu du thérapeute, alors que c'est pas le problème, quoi.
Tu peux se traduire par oui, mais moi c'était pareil, moi je connais ça, moi j'ai fait comme ça, donc.
Mais on n'a rien à dire, c'est comme les gens qui fument, puis qu'on va arrêter de fumer, et puis que du jour au lendemain, ils vont se dire tiens, je vais faire hypnose pour arrêter de fumer. Ouais, peut-être bien, ouais, peut-être que ça marche, une expérience, mais c'est pas. Dans la durée, ça marche pas, c'est-à-dire c'est pas assez consistant. Donc c'est pour ça qu'il me semble que, et si on veut avoir une légitimité ou une reconnaissance qui va de toute façon arriver, il me semble, assez rapidement, parce que ça va épailler, quoi, je pense. Oui, c'est une structure professionnel, quoi. Je parle pas de syndicat parce que là, c'est encore un
sujet. Non, ça c'est une
farce. Mais un cursus.
Un vrai truc, quoi.
Un cursus que tu ailles chez Tartempion ou Tartempoire ou faire ta formation. La suite, c'est bon, tu as fait ton maître praticien ou je sais pas quoi, mais après, tu rentres en thérapie, gars. Tu fais un an ou six mois, un an de thérapie avec un thérapeute, parce que tu vas régler tes problèmes, hein, parce que t'en as, bon. Et puis, en même temps, tu fais ça, puis en même temps, tu continues à te former, et en même temps, tu te fais superviser, quoi. Justement, sur des histoires de transfert, de contre-transfert. Comment tu fais quand tu as un client ou une cliente qui dit, qui vient vers toi et qui veut t'embrasser? Comment tu réagis? Moi, ça m'est arrivé une fois. Une fois en dix ans.
Ça existe. Et dans l'autre sens, quand c'est une femme qui essaie d'embrasser son thérapeute masculin, c'est problématique à plein niveau. Mais quand c'est l'homme qui devient entreprenant par rapport à une thérapeute féminine, là, les problèmes peuvent aller beaucoup plus loin. Ce que j'en connais, c'est le client qui te harcèle, qui te surveille, qui téléphone.
Oui, etc. Alors, mais comment toi tu vis, comment tu réagis à ça?
Il
faut être dans une structure, quand je parle d'une structure, c'est dans un cadre thérapeutique ou de formation ou de supervision où tu peux déballer et analyser et travailler. Ça, pour l'instant, ça existe peu, ou en tout cas, mon souhait, c'est que ça vienne dans le parcours de formation. Au même titre que, il y a 15 ans maintenant, les psychothérapeutes ont eu un parcours qui est organisé pour avoir le titre psychothérapeute. Ça a l'air un peu contraignant, mais c'est comme ça.
En tout cas, les gens dans le grand public s'y retrouvent mieux.
Ben,
Sauf qu'un psychothérapeute et un psychopraticien, c'est pas la même chose.
J'espère qu'ils savent qu'il y a une différence, mais en tout cas, ça serait faire preuve d'honnêteté, à la fois professionnelle et intellectuelle, que nous, on puisse dire ça, c'est-à-dire, voilà, je suis hypno-praticien, ou praticien, pourquoi psychopraticien, parce que voilà, il n'y a pas que les hypnos, mais psychopraticien, parce que j'ai fait ce parcours qui est validé. Un parcours de formation, une thérapie, une supervision, voilà, peut-être un stage, je sais pas
Parce
quoi.
qu'à l'heure actuelle, c'est le flou, même pas artistique, quoi. C'est le trouble total sur les parcours des uns et des autres. On ne sait
Oui.
pas, un hypnothérapeute, ça correspond à quel niveau
Oui,
d'études, ça
oui.
correspond à quelle
Oui,
expérience, quelle
oui,
formation, à
oui,
quelle
oui,
contrainte,
oui, oui,
quelle possibilité,
oui,
etc.
oui.
Mais si on demande aux hypnos de suivre une thérapie et. Voire même si quelqu'un avait suggéré une fois sur une discussion examen psychiatrique obligatoire avant de rentrer en formation d'hypnose,
Bon, quand même, faut pas
moi j'ai peur
exagérer
qu'on
quand
soit
même.
plus très nombreux à pratiquer, quoi.
Non, mais faut pas exagérer quand même. Hein, là, les médecins font pas ça, les psychiatres font pas ça.
Peut-être qu'il devrait.
Il faudrait déjà qu'il y ait des psychiatres pour faire assez de psychiatres pour faire l'examen.
Effectivement, oui.
Non, je crois qu'il faut être honnête. Je crois que là, bon, c'est laissé à chacun à la fois du bon sens, de l'honnêteté. Vraiment, j'insiste sur ce mot, être honnête
Et
avec
ça en fait
les
partie, le
autres.
fait d'avoir une analyse des pratiques, un regard extérieur sur ces pratiques de
Pour
supervision.
moi, oui, pour moi,
Ouais.
ça coule de source. Mais c'est comme ça, c'est juste par rapport à moi, l'honnêteté, l'intégrité, être indifférent au résultat,
Indifférent au résultat.
être indifférent au résultat, bon, ça encore, ça n'est valable que pour moi, parce que c'est, voilà, Roustan qui m'a amené à ça.
Sachant que le détachement du résultat est quand même censé favoriser le résultat.
Roustan, lui, il marchait à bouche à l'oreille,
Ouais.
son cabinet était
Ouais.
plein, c'était
Bah,
un
je pense
iconoclaste.
que contextuellement, dans le temps de la séance, il vaut mieux pas trop s'attacher au résultat, sinon on va créer de la
Donc
tension.
voilà, après, moi j'y suis arrivé à ça, c'est à travers les chinoiseries. Hein, on en discutait,
Là, on a parlé
c'est
du Tao Te Ching, le
à travers
livre de la voie et de la vertu.
voilà, à travers ça, mais ça fait quand même 25 ans, hein, que je suis
Ouais.
dans cette philosophie
Et
chinoise là.
comment ça se traduit dans ta pratique alors, le Lao Tse, le non-agir, le Tao, enfin l'idée. Il y a une idée de vie, de non-intervention, voire de passivité presque en fait, quoi.
C'est attendre.
Attendre.
Et comme dit Roustan, attendre, ainsi, attendre que la vie change. Attendre.
Attendre
Attendre sans attendre.
ouais, sans
C'est
attente, quoi.
être là. On revient à ce qui est fondamental chez Roustan et qui quand même est fondamental chez Erikson, c'est la
La
présence.
présence.
La présence, notre présence, notre manière d'être présent à l'autre, à autrui et à soi-même, être présent au monde, ça conditionne notre qualité d'écoute. Pour en revenir au thème de l'émission, là, de la discussion, c'est notre présence.
Est-ce que les gens sont en manque de présence et d'écoute?
Alors, une question que je pose à l'issue de chaque séance, c'est même deux. Ça m'est venu parce que j'ai été formé à l'approche narrative, avec bon, certaines formateurs font ça, formatrices font ça, m'ont proposé ça, et tout ça j'ai trouvé bien. C'est donc y a une question d'échelle, donc on va mesurer le changement à l'issue de la séance. Combien vous estimez voilà, le changement sur une échelle de 0 à 10, à combien vous êtes aujourd'hui. Et on fait les échelles aussi avec deux questions. Non, la première, c'est sur une échelle de 0 à 10, 0 pas du tout, de 10 entièrement, à combien vous êtes-vous senti écouté pendant la séance? Première question. Et la deuxième question, pareil, sur une échelle de 0 à 10, 0 pas du tout, 10 entièrement, à combien vous êtes-vous senti compris, comprise?
Les gens arrivent à répondre à ça?
Oui.
Ouais. Jusqu'à quel point vous êtes-vous senti écouté? Jusqu'à quel point vous êtes-vous senti comprise ou compris?
C'est pas jusqu'à quel point, c'est à combien?
À combien, ouais.
Sur l'échelle de 0 à 10. Après, voilà, puis la séance est finie comme ça. C'est intéressant les échelles parce que c'est un outil, alors pour le coup, qui est structurant, structuré dans l'approche solutionniste. Hein, on travaille beaucoup avec les échelles, mais c'est vachement intéressant. Donner de l'espoir, enfin, dire, permettre que l'espoir vive à travers les gens, parce que c'est possible.
Ouais, puis je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement suggestif là-dedans. L'idée que quelque chose peut être mesuré, ça implique qu'il y a forcément des diminutions, des augmentations, que ça. C'est pas quelque chose de fixe, quoi.
Non, c'est pas statique, c'est dynamique.
C'est vivant, quoi.
C'est aussi une manière pour la personne d'évaluer la qualité, malgré tout, de l'intervenant, hein, ouais. du travail, quoi. Même si bon, je suis encore un escroc, mais je ne fous rien, c'est qui bosse et moi qui est payé. Hein. Mmh. Bon, voilà, il y a ce retour, là, bon. Puis après, je dis, ouais, putain, j'ai une médaille. J'ai eu 8, bien, mais comment je pourrais faire pour avoir 9, ah ben 9 c'est trop, allez 8,05, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'écoute de 0,5? Bon, on peut utiliser ça aussi comme ça.
Et c'est important les médailles aussi, on en a parlé tout à l'heure, enfin, y a forcément un besoin de contribution, de besoin de se sentir utile, d'être reconnu, d'être validé, respecté, admiré aussi chez les thérapeutes, quoi. Et tout ça, certainement, ça peut parasiter l'écoute,
oui.
donner l'impulsion de prendre un peu trop de place. Comment on peut arriver à gérer les choses?
Aller en thérapie.
Ouais. Ok. Ça, c'est la réponse à tous les problèmes, en fait. Mais quel genre de thérapie? Il faut aller voir quoi?
Thérapie brève.
Thérapie brève.
Voilà. Attention, parce qu'une thérapie brève peut durer dans le temps.
Parce que bon, voilà, on joue un peu, on se connaît un peu, Renaud. Moi, j'aime bien exagérer les choses jusqu'à l'absurde. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de dire aux gens que finalement, il y a plus de boulot de thérapie à faire sur les hypnos que sur leurs clients, quoi? Il faut se former, se faire de la thérapie, superviser. Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens assez timbrés dans ce monde-là aussi. Hein, faut. Pas que des méchants, mais.
J'aurais du mal à répondre, mais si je répondais, ma question irait plutôt vers le oui que vers le non, quoi.
Ouais. Dire oui. C'est quand même quelque chose pour toi qui te paraît indispensable.
Ah, pour moi, oui. Ouais. Si on veut que le métier, enfin en tout cas, que cette manière de travailler, je ne vais pas dire ce métier, puisqu'il n'existe pas, mais que cette manière.
Il y a une industrie, mais est-ce qu'on peut parler de profession aujourd'hui? Je ne sais pas.
Moi, je connais du monde dans le milieu médical qui utilise, alors médical, par médical, qui utilise notamment l'hypnose pour des interventions, soit en situation d'urgence. Hein, je connais des urgentistes, je connais des gens qui travaillent au bloc, des anesthésistes qui travaillent au bloc, qui utilisent des techniques d'hypnose voilà, pour sécuriser tout ça, ça fonctionne. Mais leur manière de faire est certainement différente de celle qu'on a nous en cabinet, tout simplement parce qu'on a plus de temps.
Ouais. Puis ça fait peut-être partie de la démarche aussi, le temps en lui-même, quoi. C'est-à-dire le fait de réserver une heure et demie dans un agenda, je pense que pour les gens, ça fait déjà une différence, non?
Oui, quand on considère que bon, une séance chez une psychanalyste, c'est 30 minutes. Hein, que si tu y vas ou si tu y vas pas, c'est pareil, tu payes pareil. Mmh. Hein, parce que comme ça, c'est la règle, c'est le cadre, hein, c'est la cure, et la cure est comme ça. Hein.
Ouais, c'est la...
Si tu vas,
la rente.
Tu peux avoir une consultation en psycho où c'est une heure. Mmh. Quand ça se justifie, pourquoi pas? Harrison, il faisait 4-6 heures, lui. Mais il s'en foutait. Sa femme faisait la cuisine à côté. Après, voilà, c'est, chacun fait comme il peut, au moment où il peut. Quand je dis il, je peux dire elle.
Oui, il doit, bien sûr.
Moi, avec le truc inclusif, je ne suis pas bon, moi. Mais voilà, c'est juste pour que je me mette les féministes dans la poche, c'est tout.
Non, on n'a pas besoin de mettre des points médians partout pour être inclusif ou féministe.
Je reviens. Moi, je pense que c'est une nécessité, vraiment, qui est quelque chose d'organisé pour que des thérapeutes comme nous, on puisse continuer à exercer d'une manière sérieuse et reconnue comme sérieuse.
Pour rester crédible, à un moment, ça passera par ça.
C'est pas notre crédibilité individuelle qui est en jeu.
Collectif.
C'est bien la crédibilité collective d'une profession qui est un peu...
un peu nébuleuse.
Nébuleuse, pas organisée, pas représentée. Et où, à juste titre, d'ailleurs, il y a un monde médical... Mais moi, je pense qu'il a raison de structurer le truc. Mais si on laisse le monde médical uniquement structurer le truc, y a toute une partie de la population qui est de thérapeute qui est non psychologue, non infirmier, qui sera absente de cette dénomination. Voilà, donc ça sera d'autres choses, coach de vie, hypnotiste ou hypnologue. Mais ça sera la même chose après. On va se retrouver dans un fonctionnement un peu space, quoi. Donc moi, je serais plus d'avis que la profession, elle s'écoute aussi. Que les velléités syndicales de certains et certaines puissent se mettre autour d'une table. Et que ça ne soit pas juste des projections d'école, de machin, d'école de ceci.
Ouais, parce que les histoires de syndicats, jusque-là, c'est souvent quand même des idées de syndicats dans l'idée de valider certaines formations qui sont dispensées par les gens qui ont créé le syndicat.
Ça marche pas, ça.
Le côté économique, ça c'est une chose, mais...
Ça ne peut pas fonctionner, ça, puisqu'il n'y a pas d'écoute.
Ouais. Il y a une voix unilatérale qui veut décider, qui prétend normer les choses. Quoi.
Donc ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. De mon avis, moi je m'en fous parce que je serais mort. Mais... Donc remettons un peu, de l'écoute, oui, ça, vous n'avez pas compris que c'est quand même mon cheval de bataille, ça, mon dada sur l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'une séance et ce qui se passe à l'extérieur aussi.
Écouter son corps.
Alors, on n'a pas parlé du corps parce que c'était pas le sujet, mais en même temps, si on pouvait se couper la tête et puis revenir au corps, parce que, comme dit Bessel van der Kolk, le corps n'oublie rien, quoi. On a toutes nos expériences, et les expériences, les ressources, donc on revient à Erikson, on a les ressources en nous pour aller mieux, quoi.
On a les ressources dans le cerveau, qui est un organe, c'est-à-dire qu'on a les ressources dans le corps. J'ai l'impression que l'hypnose, c'est beaucoup d'abstraction à ce niveau-là, quoi. C'est quand même assez flou, on a les réponses par souvent... On élude souvent les choses sur des histoires d'inconscient, de choses comme
ça.
Mais je pense que les choses se passent effectivement dans le corps.
Voyez le poisson. Ça,
une émotion, elle reste enchâssée dans les muscles, dans les nerfs.
Personne ne sait définir l'inconscient. Là, j'ai acheté un bouquin, 900 pages.
900 pages sur l'inconscient.
Ouais, 900 pages sur la découverte de l'inconscient. Je l'ai quand même trouvé, et pas à 200 balles, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Donc son nom m'échappe. Définir l'inconscient, définir la conscience. J'en sais rien.
Et l'état modifié de conscience qui amène à l'inconscient.
Je sais pas, parce que ça. Définir l'hypnose par un état modifié de conscience, j'en sais rien.
Moi, je trouve que la formule est jolie, mais qu'elle définit pas grand-chose, quoi, malheureusement.
Non, c'est, pour moi, c'est un état modifié de conscience. Un état, c'est quelque chose qui est statique, modifié par qui, par quoi, comment. la conscience.
C'est un état comme un état grippal, un état.
Le rêve, c'est un état modifié de la conscience, et pourtant, il se passe des tas de trucs dans le rêve. Des fois, c'est agréable, des fois, c'est pas agréable. Bon, des fois, on s'en souvient, d'autres fois, on s'en souvient pas. Hein. Quand vous tapez sur le doigt avec un marteau, votre corps, il s'en souvient, quoi. Et puis, vous faites attention la fois d'après. Donc, revenir au corps, dans l'hypnose, revenir au corps, à un mouvement, revenir du mouvement, oui, redonner du mouvement. J'aime bien la définition. Alors, je ne sais plus qui c'est. Bon, c'est sûrement pas de moi. Mais bon, désolé, je ne sais plus la référence, mais peut-être que quelqu'un la retrouvera. Donc, la définition de l'hypnose, je mettrais, c'est remettre. L'hypnose, c'est redonner du mouvement là où c'est bloqué. Voilà ce que je dirais de l'hypnose, quoi.
Ouais, remettre du mouvement là où c'est bloqué.
Remettre du mouvement là où c'est bloqué. Parce que même par exemple, quand on a le syndrome du hamster dans sa cage, dans la tête, hein, petit vélo quoi, qui tourne, hein,
ouais, c'est comme quelque chose de fermé, de circulaire.
C'est circulaire, tout ça, bzz, voilà. Bon, il y a du mouvement, on voit le hamster, mais en tout cas, bon, c'est toujours de la même chose. Hein, donc, c'est bloqué,
Donc plutôt détourner, réorienter l'inertie, quoi. Il y a une force d'inertie dans le mouvement, l'inertie statique, peut-être.
Et donc, en revenant à François Roustan, c'est « Installez-vous confortablement dans le fauteuil et trouvez votre place. » Et prenez le temps de trouver votre place. Rappelez-vous que quand vous vous couchez, vous ne trouvez pas tout de suite votre position pour dormir, de la même manière qu'un chat ou un chien tourne dans sa corbeille pour trouver la bonne position où il sera, où elle sera, tout à fait bien pendant le temps de sommeil. Et bien, l'hypnose, ça peut être ça aussi, comme métaphore, trouver sa place. Mais bon,
trouver sa position,
voilà. Après, chacun son vécu, ses écoles, mais toujours dans une qualité d'écoute indispensable, alors pour le coup, à la fois dans ce qui est dit, dans ce qui est vu, dans ce qui est reçu, et ça, ça se travaille. Alors si vous avez la possibilité d'aller faire des formations à l'esprit de Carl Rogers, allez-y, quoi. Je suis fan, mais je suis fan depuis plus de 40 ans.
Donc toujours fan.
Toujours fan.
Parce que ça, c'est, je pense que au-delà des clivages, des guerres de clochers un peu dans l'hypnose ericksonienne, humaniste, allemandienne, que sais-je, tous ces labels, je crois qu'il y a quand même quelque chose de commun dans les différents styles, c'est que les réponses, les solutions, l'élan vital, ça doit émerger de la personne elle-même. Il n'y a que la personne qui peut savoir. Et ça implique, tu me l'avais dit dans le dernier message que tu m'avais envoyé, que c'est un renoncement de la part du praticien. C'est beaucoup de renoncement, en fait. Hein. C'est renoncer à une espèce d'impression de savoir des choses qui nous rassure. C'est renoncer à se mettre en avant, renoncer à avoir des réponses.
C'est ça. C'est renoncer au résultat.
Donc on est tous d'accord là-dessus dans toutes les écoles d'hypnose, en admettant qu'il y ait des choses qu'on puisse appeler des écoles dans l'hypnose. Mais j'ai l'impression que c'est rarement incarné, en fait.
Je peux pas dire, je connais pas les pratiques, moi. Donc là-dessus, je sais pas.
Ok.
Je sais pas.
Quel conseil tu donnerais au jeune Renaud qui démarre l'hypnose aujourd'hui ?
Peut-être. J'en aurais deux.
Deux.
Ouais, c'est un truc mitterrandien, quoi. C'est laisse le temps au temps.
Laisse le temps au temps.
Voilà, laisse le temps au temps. Puis un autre qui est un peu plus trivial, un peu plus rigolo, puis qui me convient mieux, c'est pète pas plus haut que ton cul.
Pète pas plus haut que ton cul. Je prends mes notes.
Oui, c'est bien.
Je relis pas mes notes, mais je fixe.
Ça peut être un bon départ pour une formation pour des hypnoses.
Ouais. Bah, effectivement, ouais. Laisse le temps au temps. Bon, enfin, est-ce que ça mérite d'être développé? C'est l'avantage un peu des aphorismes de Lao Tzu, comme ça. On comprend ce que ça dit. On oublie le paramètre au temps dans l'hypnose, souvent.
Ouais.
On veut aller trop vite.
C'est-à-dire... l'hypnose, la temporalité en hypnose, c'est assez paradoxal. Hein. Je sais pas s'il y a un truc là, ouais, tu dois avoir un réveil, je sais pas, ou une montre pour minuter les séances ici.
Non, même pas.
Bon, enfin, bon, quand même. Moi, il y a toujours. Mais ça, c'est parce que mon grand-père était horloger. Et que mon père a voilà, récupéré des tas d'horloges, et voilà, j'ai hérité. Alors voilà, c'est. Je ne peux pas arriver à me défaire de ça. Je suis l'impression d'être le maître des horloges.
Okay.
On dit ça du président de la République, mais en tout cas, moi, avec la mairie Sten, je suis...
Moi, je vais être pour toi.
Donc, j'ai des montres, des petites pendules, des machins partout. Donc, j'ai un rapport au temps assez bizarre, qui d'ailleurs, pendant très longtemps, m'a énormément stressé. Je me suis énormément stressé. C'est pas le temps, c'est le rapport que j'en avais qui me stressait. Je me rendais dingue d'arriver en retard, ou d'être trop en avance. Donc l'histoire de la dictature de la trotteuse, de l'aiguille. Aujourd'hui, je m'en fous. Travail thérapeutique, voilà. Donc le rapport au temps, quand nous sommes en situation de transe hypnotique, comment dire, moyenne profonde, quand on ouvre les yeux, on a l'impression que ça s'est passé 2 secondes, quoi, 10 secondes, une minute, alors que c'est 30-40 minutes des fois. Mais quand on se fait chier...
C'est le contraire.
Moi, ça m'est arrivé de me faire chier pendant une séance d'hypnose en tant que sujet, dans des formations. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'emmerde, quoi.
Ah, ça peut être pénible.
On a un rapport au temps qui est quand même... Donc ça peut arriver qu'il y ait des patients, des clientes qui viennent et qui s'emmerdent. Il y a un rapport au temps, donc le temps est fluctuant comme ça, le rapport au temps est fluctuant. Donc donner du temps au temps, c'est, encore une fois, ça veut dire ben, soyez pas trop pressé, quoi. N'allez pas trop vite. Alors ça, je le dis régulièrement, volontiers, des gens qui viennent me voir parce que bon, veulent perdre 20 kilos en 2 heures, ou moi je sais pas faire, hein, ou alors coupez-vous une jambe, un bras aussi, peut-être que ça fera le taf. Puis nous, quand on démarre, quoi, on a envie, jeune praticien, jeune praticienne,
on a envie de faire des étincelles.
C'est ça qu'il faut bosser en supervision, c'est ça qu'il faut bosser en formation, c'est cette impatience. Non, soyons pas si impatients que ça. Alors, je reviens à...
Il ne faudrait pas être plus impatient que les personnes qu'on veut aider.
Voilà, donc il y a une phrase d'un psychologue américain que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, que je ne connais pas, parce que... J'ai pas lu son bouquin, c'est compliqué à le trouver, et puis qui est qu'en anglais, mais qui m'a été traduit par Yves Doutre-Lugne, je crois que c'est de lui, donc de Nicolas Cummings, qui dit, ou peut-être de Nardone, enfin bref, peu importe. En tout cas, moi je crois que c'est de Cummings. Un thérapeute bref n'est pas un thérapeute pressé. Donc une thérapie brève, ça peut durer des années.
Oui, il me semble que le standard, c'est 2-3 ans, minimum, enfin, quand même, quoi.
Non, 10 séances, le standard.
Ah, 10 séances, d'accord.
10 séances, mais qui peut être répartie dans la durée. Ma psychanalyse, que j'ai faite en tant que sujet, ça a duré 5 ans. Voilà. Mais ça aurait pu durer plus longtemps. Il y a d'autres, c'est plus court. Mais du moment où j'avais envie de tuer... mon thérapeute, j'ai dit ok, c'est fini. Donc c'est ça. Donc il y avait ça.
Tu es symboliquement le thérapeute.
Ah ben, oui, il y avait ça.
Et pas plus haut que ton cul.
Et ouais, papa était plus haut que son cul. Donc c'est être juste à sa place, quoi.
Ouais.
C'est rester à sa place. Reste à ta place. Estelle, reste à ta place. C'est ce que je dirais au jeune Estelle, là, qui veut tout péter. Pas trop vite. Encore, un rapport au temps. Ouh là là, tu vas pas trop vite. Non. Tu en chies un peu, là. D'abord. Ça va te faire l'expérience. Hein. C'est comme quand on va à l'armée. Tu sais, hein. qui c'est qui parle anglais,
moi,
à la table, la corvée de chiottes. Voilà. Donc c'est. Et puis alors, bon, si j'avais un troisième conseil, c'est, voilà, on va dire d'une manière aussi triviale, reste toi-même. C'est pas tout de dire ça, mais. Utilise l'humour en thérapie, parce que ça c'est quasiment jamais abordé, mais bon, l'hypnose c'est pas sérieux, hein, voilà, désolé, une thérapie ça peut l'être, mais l'hypnose ça peut être très marrant, très ludique, moi je vois des trucs passer, il n'y a pas que les enfants, avec les enfants avec qui on peut s'amuser, hein, dire, voilà, donc l'hypnose ça peut être très marrant, très rigolant, ben, par exemple le Swan, hein, que Philippe Miras... a développé et dont il forme pas mal de monde, hein, dont nous. C'est très marrant.
Ouais, les mouvements automatiques, parler avec sa main, les mouvements automatiques.
Parle à ta main. Alors, par exemple, voilà, une introduction, on parlait du consentement des personnes, quand je leur dis, voilà, ben, est-ce que vous êtes d'accord pour faire une expérience? Puis vous allez voir, c'est très marrant, vous allez parler à votre main, regarde comme ça, avec des yeux, mais non, si, vous allez parler à votre main, puis votre main va vous parler, et c'est très marrant. Et donc on fait ça.
Un émerveillement, un étonnement qui...
Et encore du mouvement,
toujours du mouvement, hein.
À l'extérieur, mais pas qu'à l'intérieur, c'est du mouvement extérieur, la main qui bouge, enfin bref, puis après on peut travailler comme on veut. Donc amusez-vous, quoi, surprenez-vous, soyez créative, créatif.
C'est-à-dire qu'on peut s'amuser en restant, enfin en travaillant sérieusement. Ce que tu dis, c'est pas de faire des blagues mounettes, de faire le pitre.
Mais on peut aussi
être dramatiser aussi l'atmosphère.
On peut être aussi sérieux en disant, vous savez, si vous continuez comme ça, vous allez mourir. Ça, c'est le dire à un anxieux, ça fonctionne très bien. Je rassure jamais un anxieux.
Des personnes anxieuses, ça sert à rien de raisonner, quoi. Il vaut mieux, à la limite, aller sur l'absurde, sur des choses comme ça.
Utiliser l'absurde. Donc là j'ai étudié, j'ai travaillé et étudié le travail de Farelli, de Doutre-Lune aussi, parce que c'est...
Thérapie même... provocative.
Bon, on l'appelle comme on veut, mais c'est un mot pompeux. Hein. C'est juste rajouter un truc derrière le mot thérapie, ça n'a aucun sens. Hein. C'est une manière d'être, là encore, c'est une présence. S'il faut botter le cul, on botte le cul. S'il faut flatter, on peut flatter. En tout cas...
Et c'est là l'idée de la congruence de Rogers.
Être soi-même.
Tu bottes le cul quand t'es du genre à botter le cul, quoi.
Ben par exemple, mais pas uniquement, c'est pas parce que donc, t'es un petit peu baraqué. Non, c'est quand ça se justifie, si tu dois secouer les puces à quelqu'un qui fait pas son boulot. Parce que toi, même si tu es indifférent au résultat, si tu donnes du boulot à faire, alors tu t'as les suggestions post-hypnotiques, donc là, généralement, c'est bien accepté, mais les tâches. Les tâches thérapeutiques ou les tâches de je sais pas quoi, si on les appelle pas thérapeutiques, et quand les gens disent mais j'ai pas eu le temps, d'accord, j'ai pas pensé, d'accord. Bon, des trucs tout simples, j'ai pas besoin non plus d'aller couper les cheveux en quatre, faut donner des trucs simples, quoi. Quand les gens viennent et te disent j'ai pas fait, désolé, excusez-moi, je dis non, je vous excuse pas, et en plus. Je vous en remets une couche. Voilà, vous n'avez pas fait vos devoirs, vous êtes puni.
Normal.
Normal.
Ça dépend.
serait vous qui...
Il y a des profs qui renoncent au bout d'un moment. Tu fais pas tes devoirs, ils t'en donnent plus.
Oui, bah après, c'est même pas la peine de venir en thérapie chez moi, quoi. C'est bon, on arrête. Voilà, c'est là où moi, je vais faire preuve un peu de directivité en disant, bon, c'est pour mes beaux yeux ou pour régler votre problème que vous êtes là, quoi, hein. Donc, encore une fois, dans la capacité d'écoute... de ce que la personne a à dire, ou enfin ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne dit pas, mais la manière dont on le perçoit, dont on le reçoit, c'est très instinctif, des fois c'est très animal. Moi j'aime bien aussi travailler, encore une fois, avec mes chats, mais ça peut être avec des chevaux, avec des chiens, ça nous donne d'autres éléments d'appréciation.
Je pense que le chat est plus proche de l'humain que le chien quand même.
Bon. Moi ça fonctionne plutôt bien, puis moi, je suis un contemplatif, je peux rester des heures assis devant une fourmilière à regarder une fourmi, et c'est très hypnotique parce qu'on est focalisé sur un truc d'abord au milieu, et puis après t'as le regard qui part là, à 180 degrés, là tu te dis ouais, putain, il y en a partout.
Bon, et c'est fascinant, cette activité sur 3 cm.
Voilà. Et ben nous on doit être aussi capable de ça, quoi, quand les gens nous parlent où ils font ou ils font pas le boulot. Donc ça nous permet aussi d'avoir des solutions et d'être juste, d'être à notre place, botter le cul s'il faut botter le cul, d'être bienveillant s'il faut être bienveillant, enfin on est tous toujours bienveillants, bénévolaré, vouloir bien, quoi.
Si on peut être plus dur ou plus enveloppant, plus protecteur, suivant...
Là on est dans la stratégie thérapeutique, mais de la stratégie propre à nous, et on le dit pas, c'est-à-dire, attendez, pas en cul quoi, je veux pas vous dire ça. Donc c'est bien parce que je vous ai écouté, entendu, réécouté, c'est parce que je suis là, disponible à vous, pour vous, que je peux faire ça. Oui. Je peux faire ça. Donc ça vient, c'est... Voilà. Et si je dois vous botter le cul pour vous faire réagir, de manière à ce que le changement, ben, vous l'embrassiez, vous mettez... Eh ben, ok, allons-y, quoi. Allons-y. Rappelez-vous, voilà... petit enfant qui est debout là, qui se tient, qui va se lâcher, qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils sont là à côté, mais des fois, pan, il y en a un qui, hop, une petite tape au cul, et puis le gamin, hop, il y va, il se pète la gueule, mais bon, il se relève et il recommence. Et ben, pour nous, c'est un peu ça, quoi. Des fois, on est un petit peu parents, hein, un peu parents des gens qui viennent nous voir. Donc, pas toujours être gentil, quoi. C'est pas ça, gentil, non, pas gentil. Ah, monsieur Estelle, vous n'êtes pas gentil. Vous m'avez fait pleurer. Ah, ça rançon de la gloire, hein. Heureusement, hein. Ben, vous me devez tant pour les mouchoirs, quoi. Je vais augmenter le prix de ma consulte. Bon. Puis voilà, faut trouver des mots un peu marrants, quoi. Marrant, agréable.
Je crois qu'on oublie un peu de se comporter comme des êtres humains, hein, quand dans le monde de la thérapie, on a parlé de PNL parce que toi et moi, on a quand même une admiration pour la PNL, malgré des exagérations, etc. Mais il y a quand même des choses très intéressantes.
Ouais, des trucs intéressants, oui.
Mais où quand même, c'est devenu à un moment une manière de formater un peu les gens, leur apprendre à parler comme des robots, pour leur dire après, quand ils ont tout appris, d'oublier ce qu'ils ont appris pour communiquer de manière plus spontanée.
Oui, ça, c'est pas, on le dit pas toujours, hein, oubliez ce que vous avez appris. Hein.
Ouais, mais c'est les nouveaux maîtres praticiens.
Oui, mais ça, on le dit pas toujours. Hein. j'ai redoublé, donc je peux te dire j'ai redoublé.
Non, mais j'ai redoublé mon prat hypnose aussi.
Ah, mais j'ai redoublé volontairement. Hein,
ouais, moi aussi. Ouais.
Voilà. Mais
non, il y a peut-être un naturel à retrouver au niveau des relations qu'on a avec les gens aussi.
Oui, alors,
le formalisme, alors, le sérieux, le professionnalisme.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se dépouiller de tous les trucs qui sont inutiles et revenir à quelque chose qui est simple. Revenez, c'est la démarche de Roustan et d'Erickson. Revenir à la simplicité, simple. Il n'y a pas plus simple que de regarder quelqu'un dans les yeux pendant quelques secondes, quelques minutes, et de lui dire « je suis là ».
Et pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extrêmement précieux, l'attention qu'on leur porte.
Ben, ils nous payent pour ça. ils souffrent, ils ont une souffrance quelconque et ils cherchent quelqu'un qui va régler le problème à leur place, souvent. Quelqu'un a dit non. Mais c'est d'être écouté.
Ouais, mais écouté. Je sais pas si c'est une question d'être payé. Tu vois, je t'ai vu tout à l'heure au resto avec la jeune apprentie. Elle t'a pas payé et tu lui as dit un truc super gentil. Elle était toute émue. Elle t'a pas payé pour ça. Tu vois. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à laisser un peu, à laisser échapper un peu de la carapace, de l'armure du thérapeute qu'on porte, un peu tous.
C'est juste. C'était juste que, voilà, c'est venu comme ça. D'une manière spontanée, naturelle.
Ouais.
Et on n'a pas besoin de faire 10 ans d'études pour ça, quoi. Il y a juste à savoir que chacun d'entre nous, nous sommes capables de ça.
Ouais.
J'appelle le, voilà. Le,
question de disponibilité, quand même.
Voilà, disponibilité, parce que voilà, la conversation qu'on a eue était agréable, le cadre était plutôt sympa. La petite, je l'appelle comme ça, mais
une gamine. Ouais.
J'ai tout de suite vu que elle était là parce qu'elle était là pour apprendre. Et c'est quand elle est arrivée quand nous sommes rentrés dans le restaurant, je l'ai remarqué.
Mais je pense qu'il y a des gens comme ça, ils n'ont pas l'habitude d'être remarqués. Je pense que beaucoup de gens, surtout aujourd'hui, sont frustrés de communication, d'écoute. Tu vois. T'avais entendu parler de ce reporter qui avait fait une immersion chez les SDF, donc il a vécu comme un SDF pendant 2-3 semaines. Mmh. Et ce qu'il disait, en fait, le plus dur, c'est pas le froid, c'est pas la faim, c'est que les gens ne te voient pas. Tu deviens invisible. Ben, les gens ne t'écoutent pas, ne te parlent pas, ne te regardent pas. Surtout, ils ne veulent pas te voir, en fait.
Ben, c'est comme les déchets.
Ouais.
Ben, comme c'est les ordures, les déchets. Ben, on est plein, quoi. Enfin, la plupart du temps, on est plein. Hein? Mais les gens qui viennent nous voir, c'est pas des ordures, c'est pas des déchets. C'est pas...
Non,
on a fait, même si c'était.
Mais souvent, ils se sentent un peu comme ça.
Même si c'était des ordures ou des déchets, hein, on n'a pas à les qualifier, nous.
Non,
on les reçoit tels qu'ils sont. Parce qu'il y a une souffrance et qu'ils viennent pour changer quelque chose, ou peut-être changer quelque chose.
En tout cas, déposer, se libérer au moins d'une souffrance.
Voilà. Ouais, c'est... voilà. Et. Le thème de cette journée, l'écoute, même si c'est pas un peu une technique comme ça, mais plus de témoignage.
Plus l'approche que la technique, en fait.
La technique, c'est vite fait. C'est juste la pratique, c'est pratiquer, et puis prendre l'expérience, son expérience, comme richesse, et puis travailler ça, quoi. Faire fructifier, quoi. Comme une graine qu'on plante ou une forêt qui pousse, hein. C'est important. Alors moi, je suis capable de le faire parce que ça fait 40 ans que je fais ça. Quelqu'un qui débute, ben voilà, vas-y doucement, quoi. Une forêt, ça pousse pas en 5 minutes, hein. Sinon, ça se saurait, quoi. On n'a pas de problème de chauffage.
C'est sûr.
Voilà.
Renaud, avant de conclure, je t'aurais demandé une suggestion de lecture, mais je crois qu'il y a déjà ce livre
La
rencontre de Charles Pépin.
Voilà, donc c'est un bouquin que j'ai lu il n'y a pas trop longtemps, parce que moi je ne connaissais pas trop Pépin, mais c'est un philosophe qui est assez accessible. Voilà. Et je l'ai choisi pas pour toi, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Nous voisins, hein, si peu loin, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était symboliquement quelque chose d'intéressant, d'important. Puis bon, ce qui est dit sur la rencontre, ça permet aussi d'avancer dans sa position, posture, appelez ça comme vous voulez, de praticien, thérapeute. Il n'y a pas que les formations, il n'y a pas que les séminaires, les webinaires, les podcasts. Il y a la lecture.
Et les rencontres.
La lecture, les rencontres, surtout les rencontres. surtout les rencontres. Et chaque personne qui vient au cabinet, à chaque fois, c'est une nouvelle rencontre. Oubliez ce qui s'est passé avant. Chaque séance, c'est une nouvelle rencontre. Oubliez ce qui s'est passé avant.
Oubliez ce qui s'est passé avant.
Oubliez ce qui s'est passé.
Chaque nouvelle séance, c'est une nouvelle rencontre.
Voilà, chaque nouvelle séance, c'est une nouvelle rencontre. Donc, à chaque fois, nous devons nous adapter à ce qui est. Voilà. Donc, conseil de lecture, si je peux me permettre de livres là, qui me viennent comme ça, parce que je suis en train de le terminer et l'autre de le commencer. Le premier, c'est Les chaussettes trouées.
Les chaussettes trouées.
Ouais, Les chaussettes trouées de Dominique Méglet. Donc, fameux. Alors, lui, c'est le spécialiste français d'Erickson, Dominique Méglet. Hein. Voilà, et donc là, c'est une compilation d'articles, d'interventions dans les différents séminaires, colloques et compagnie, les articles de la revue Hypnothérapie Brève. C'est savoureux. Enfin, voilà, et donc, il a un classement par ordre alphabétique, un peu comme ce qu'avait fait Roustan. Il a écrit un bouquin, l'abécédaire de Roustan. Voilà, bref, donc, c'est classé par ABCD. Enfin, c'est très intéressant, rigolo. J'aime beaucoup. Si je devais m'inspirer dans l'hypnose de quelqu'un en France, ça serait éventuellement Méglé. Voilà. La manière dont il procède, ne serait-ce que sa facilité qu'il a à proposer des transes moyennes profondes très très rapidement. Moi, c'est ça que j'essaye de travailler. Ça, c'est la première chose, premier bouquin. Les chaussettes trouées de Dominique Méglet, c'est sorti l'année dernière, c'est bien. Et puis le deuxième, c'est le bouquin de les conversations de Jean-Marc Benahim et de François Roustan. Donc je ne sais plus le titre du livre, il vient juste de sortir là, il y a une quinzaine, un mois. On retrouve Roustan, c'est pas lui qui a écrit, hein. C'est une partie des correspondances de Benahim et de Roustan. Et en France, c'est vrai que Jean-Marc Benahim, c'est quand même un des spécialistes de la pratique et de la pensée de François Roustan. Et François Roustan, c'est là aussi un personnage. Un personnage, je ne vais pas dire un modèle, mais un personnage vraiment. Même titre que Chertok, mais Chertok est quand même. Voilà.
Je trouve que Chertok, il est plus facile à situer quand même, globalement.
Il était moins exubérant.
C'est moins exubérant que
Roustan, moins médiatique. Puis voilà, il est resté dans son laboratoire. Mais Roustan, sa pensée mérite d'être. Alors on peut très bien ne pas la partager du tout, être hermétique à ça, et c'est juste, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais moi j'y suis très attaché parce qu'on partage une même vision philosophique qui vient de la Chine. Je rajouterais peut-être quelque chose d'assez fondamental, comme disait François Roustan, dans la pratique de l'hypnose. On parle beaucoup de techniques, de positions, de machin. La philosophie, je pense qu'il faudrait, me semble-t-il, avoir quand même une invitation, une inclinaison à lire la philosophie, ou à lire des textes philosophiques. Que ça soit Socrate, que ça soit Descartes, rapport au réel. Socrate, le rapport aux ressources intérieures, la maïeutique, Descartes, le rapport du réel, de soi au réel, de la perception, la conscience qu'on a de soi, hein, l'ego, voilà, il vient de là.
Peut-être les stoïciens,
pourquoi pas,
pour voir que tout le développement personnel d'aujourd'hui, c'est... ça vient d'aussi loin que ça.
La pensée des modernes, enfin, ce qu'on appelle moderne, bon, par exemple, Michel Foucault, Derrida, qui sont quand même des précurseurs, qui ont influé sur la pensée de l'approche narrative de Michael White et David Epson. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ben oui, ça peut être, mais les solutions peuvent être des problèmes aussi. Donc, la philosophie, ou en tout cas certains textes philosophiques, voilà, devraient, il me semble, être lus ou partagés un peu plus que simplement t'as pas un script.
Effectivement.
Voilà. Bon, voilà. On n'a pas parlé aujourd'hui de l'intention. Et ça, c'est aussi un sujet intéressant. L'intention. Quelle intention on a, nous, en tant que thérapeute,
est-ce qu'il faut en avoir une?
Moi, je n'ai pas de réponse, là. C'est un questionnement possible, l'intention, en étant honnête, quoi. En étant honnête. Mais ça, ce sont des sujets qui peuvent être traités à la fois dans des séminaires ou qui peuvent être traités dans une thérapie de thérapeute ou dans une supervision.
Dans une supervision.
Voilà. Qui doit être obligatoire.
Qui doit être obligatoire.
Et cher.
Bah oui.
Et cher.
Bah, c'est, tout ce qui n'est pas cher ne sert à rien. Cher, on le sait.
Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui à partir de l'écoute. Voilà. Alors merci à tout le monde. Hein.
Merci les gens, merci Renaud. Bonne journée à tous et à bientôt.